j'étais assez épatée de voir sur le site du NPA que vous, en quatre lignes, vous expliquez qu'il faut qu'on sorte du nucléaire d'ici 10 ans.
Alors c'est pas en quatre lignes, c'est en quatre pages, puisque sur le site du NPA, il y a un quatre pages qui a été fait par les camarades de la commission écologique.
Quoi en train de dire ma gouvernante?
Sérieusement ma chérie, bonne, c'est un terme assez gratifiant, tu sais. Bonne, bonne à tout faire, bonne à tout faire. Qui peut s'en vanter?
Le mépris de classe, une longue histoire. Qu'est-ce qu'il signifie? Comment le saisir? Qu'est-ce qui se joue et déjoue dans ce terme, mépris de classe? Révélateur des rapports de domination, en émergent des émotions. Tel est l'angle pris à travers l'ouvrage collectif « Mépris de classe, l'exercer, le ressentir, y faire face » dirigé par Nicolas Renaï et Pierre-Emmanuel Sorigné, paru aux éditions du Croquant. Sociologue à l'INRAE, Nicolas Renaï revient pour nous sur la genèse de cet ouvrage qui propose de sociologiser le mépris de classe et aussi sur sa trajectoire de sociologue, son statut et sa position d'intellectuel. Première partie. À propos du mépris de classe. Bonjour Nicolas.
Bonjour Salima.
Vous avez co-dirigé avec Pierre-Emmanuel Sorigné l'ouvrage « Mépris de classe, l'exercer, le ressentir et faire face » à travers lequel plusieurs auteurs proposent différents articles traitant ce concept que vous avez sociologisé. Vous en faites une catégorie d'analyse, de manière notamment à saisir les logiques de rapport de domination, de manière également à analyser et à comprendre ce qui s'y joue dans les interactions quotidiennes, les rapports sociaux du quotidien, au travail mais aussi dans le privé, d'où découlent des émotions, et ça on va le voir. Aussi, d'abord, Nicolas, quelle a été la trajectoire intellectuelle de rencontre qui t'a mené à penser le mépris de classe comme concept, donc comme catégorie d'analyse, à vous en saisir, puis à réaliser cet ouvrage?
Travailler sur le mépris de classe, c'était l'idée qu'on avait en tête depuis un moment. Donc on a sollicité un collectif autour de journées d'études qu'on a fait à Lausanne avec Pierre-Emmanuel Sorigné en décembre 2015, en sollicitant des auteurs par rapport à cette expression, mépris de classe, qui circulait de plus en plus dans l'espace public, et qu'on voulait essayer de sociologiser, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était très courant dans l'espace public, de plus en plus utilisé par les grands élus, par des journalistes, etc. Et beaucoup de collègues avaient pu faire des interventions dans la presse pour, en jouant leur rôle intellectuel médiatique pour réagir à cette notion et montrer ce qu'elle désignait. Et la volonté, ça a été de faire un travail systématique sur la question, en posant la question d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux collègues qu'on a sollicités, pour voir ce que la sociologie avait à en dire. Et en fait, on s'est rendu compte que l'idée, c'était donc pas du tout de proposer un grand concept, une grande notion, etc. C'était de prendre au sérieux ce qui se passe dans l'espace public pour voir à quoi ça renvoie et qu'est-ce que la sociologie a à en dire, si elle a quelque chose à en dire. Alors au final, on a publié un bouquin, donc c'est quelque chose qu'on estime avoir quelque chose à en dire. Mais le point de départ, c'était un peu un pari quand même. Voilà.
Le mépris de classe est un terme très chargé et soulève beaucoup d'enjeux, vous le dites, au-delà des, donc tu viens de le dire, au-delà des scènes médiatiques ou politiques sur lesquelles il est très ancré, vous le neutralisez en pensant notamment à l'article de Claude Grignon qui ouvre l'ouvrage dans son aspect révélateur des rapports entre les classes sociales, mais aussi à Gérard Noiriel, avec qui vous vous êtes entretenu, Pierre-Emmanuel Sorigné et toi, et qui mesure le fait de lier le vocable mépris à celui de racisme. Alors, Nicolas, quel est ta définition de mépris de classe à titre de sociologue?
Alors, je ne vais pas te donner et aux auditeurs une définition bien stabilisée, parce que c'est à chaud, quoi. Mais l'idée, c'est l'idée de, par une expression, par un regard, par une manière de déconsidérer quelqu'un, de l'inférioriser socialement. C'est-à-dire que c'est un peu le mépris de classe, on pourrait dire que c'est l'envers de la respectabilité. En tant qu'être social, on cherche tous à avoir un statut, mais aussi une valeur sociale, à avoir une reconnaissance, etc. Et quand s'exprime le mépris de classe, c'est une manière de rabaisser la personne à son statut. C'est de la part d'un dominant, lui dire « Attends, comment tu me parles ?» ou « Qu'est-ce que tu me dis là ?»« Tu n'es que ça, Je n'ai que ça dans l'ordre des choses, et donc de le renvoyer à sa position subalterne.
Donc, à travers cet ouvrage, Mépris de classe, mais également le numéro de Société Contemporaine qui est consacré, donc qui est paru en janvier 21, qui l'accompagne, qui entre en complément. La catégorie Mépris de classe renvoie à des réflexes sociaux dans les interactions. Et donc, les différents chapitres de l'ouvrage du livre sont des enquêtes de terrain, des expériences in situ du mépris de classe, desquelles ressortent alors des émotions. Alors ça, c'est l'aspect très important et qui mobilise donc des affects. Par affect, on comprend le dégoût, la honte de soi, le fait de ne pas se sentir à sa place, d'être mal à l'aise, le ressentiment aussi. Alors, on le ressent jusque dans son corps. Donc là, on pense à l'article de Nicolas Spire dans Le Monde du Travail, notamment dans un grand hôpital parisien, à travers lequel se jouent des rapports interactionnels, notamment entre des infirmières et des médecins, chirurgiens, dont un fait dans lequel un médecin va nier littéralement une infirmière qui se le prend dans le corps. Elle se prend physiquement. Donc le mépris qui est spontané devient brutal, d'autant plus qu'il se manifeste de manière consciente ou pas dans l'interaction. Avoir conscience du mépris ou pas. Donc la conscience liée à la conscience de classe.
Alors que ce soit... Alors il y a eu un très bel article dans Le Monde Diplo l'an dernier, je crois, de Bernard Pudel sur le mépris de classe comme inconscient de classe. Et je pense que Bernard Pudel a tout à fait raison. Après, que ce soit conscient ou inconscient, c'est peut-être pas tellement la question, c'est-à-dire c'est une réaction épidermique en fait, l'expression du mépris de classe. C'est quand quelqu'un qui occupe une position professionnelle, comme dans le cas de ce médecin que tu évoques, ou sociale plus généralement, ça peut être dans l'espace résidentiel, ça peut être dans la famille, etc. Quelqu'un qui occupe une position socialement supérieure va soit se sentir en danger, parce que on pense à l'histoire des conflits sociaux et de la chemise qui avait été arrachée il y a quelque temps dans un conflit social, etc., à Air France, je crois, soit que la personne... Il y a une rencontre exceptionnelle. Une rencontre... Alors, Nicolas Spire, tu cites cet article qui est vraiment très intéressant, parce que non seulement il voit ce genre de situations qui sont ordinaires, en fait. Un médecin travaille très régulièrement avec une infirmière, mais il y a aussi des situations plus exceptionnelles. Et Nicolas Spire, qui est expert CHSCT, rencontre beaucoup... provoque ce genre de situation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il voit des patrons ou des DRH qui sont en interaction régulière dans l'année avec des représentants syndicaux. Mais là, lui, il intervient en tant que membre extérieur de l'organisation professionnelle. Et sa présence et le fait qu'il rende un rapport dans lequel le patron ou le DRH peut être mis en cause, ça va remettre temporairement en question la place du supérieur, du dominant. Et c'est ça qui va le pousser dans ses retranchements. Et l'expression « pousser dans ses retranchements » dit bien ça. C'est-à-dire que du coup, il va puiser dans ce qu'il est foncièrement, socialement, pour essayer de s'en sortir. Et donc, du coup, potentiellement mépriser le... Voilà. Après, mépris, effectivement, c'est une charge très morale qui nous a posé... qui nous a obligé à pas mal réfléchir conceptuellement sur le fait de qu'est-ce que c'est que d'essayer de sociologiser une notion morale, une question qui le sociologue il est pas là pour juger quoi, il est pas là et donc du coup plutôt que on n'a pas voulu du tout aller dans un sens ou dans l'autre, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe dans ces interactions, dans ces rapports sociaux où il y a une violence verbale, émotionnelle qui se met en jeu et justement le partant de la question du mépris dans l'expression mépris de classe, ça a été de réfléchir sur les émotions de classe qui sont en jeu dans les rapports sociaux entre personnes inégales socialement ou simplement dans l'entreprise qui ont un rapport hiérarchique. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui dérape. L'ordre social n'est plus ne découle plus de lui-même et donc le dominant se sent obligé à un moment donné de rappeler l'ordre des choses.
Oui, il y a cette question de donc ce qu'on appelle la sociologie des émotions, où se joue notamment donc la question de la valeur sociale, notamment par rapport à cette personne, et la valeur sociale donc qui se construit notamment au sein des classes populaires. Est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes ?
Alors, tu me diras si je réponds mal à ta question, mais je pense que le concept miroir de la catégorie de mépris de classe, c'est le concept de respectabilité, C'est-à-dire que quand on occupe une position professionnelle subalterne, c'est-à-dire qu'on appartient aux classes populaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autonomie dans son travail, qu'on obéit à des donneurs d'ordre, on a conscience de cette position. Et donc, du coup, on essaie d'être légitime, de construire une forme de légitimité, une forme de respectabilité, c'est-à-dire devenir respectable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux en sociologie sur la question de la respectabilité. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour comprendre ce que c'est d'être membre des classes populaires de leur point de vue. Voilà. En essayant, tout en étant un intellectuel très diplômé, etc., en essayant de se mettre en dialogue avec ces populations pour qu'elles ne parlent plus à un dominant, mais qu'elles parlent à quelqu'un de confiance, à qui elles vont dire de comment elles vivent leur position. He brings her a dozen roses, wrapped up in the daily news. She won't answer the question he poses. She refuses to marry a man in trash man shoes. In trash man shoes. God knows he works so hard, I do believe he's paid his dues. His clothes, his breath, his poetry all smell like trash man shoes, trash man shoes. But he loves her, and he needs her, and she never tries to understand. And she shops him, and she beats him, and she treats him like an old trash can. Still he loves her, and he needs her, and his love is always clean and true. But she snubs him, and she teases him, oh how can the girl refuse? The man in trash man shoes, in trash man shoes. Roses grow on the trash pile, down in the city dump. They're a joke to all the trash men, and he's always the brunt. Still he brings them home to her when those red buds bloom, and she cheapens their sweet scent with the smell of her stale perfume. Still a rose is a rose is a rose by any other smell. With his nose to the filthy grindstone, he knows it all too well. Daily news. She won't answer when he proposes. She refuses to marry a man in trash man shoes. In trash man shoes. But he loves her and he needs her, and she never tries to understand. And she shops him and she beats him, and she treats him like an old trash can. Still he loves her and he needs her, and his love is always clean and true. But she snubs him, she teases him, oh why does the girl refuse? The man in trash man shoes, in trash man shoes.
Les Shoulders avec Trash Man Shoes. C'était ton choix musical, Nicolas. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ?
Alors, il y a donc on est à Nantes, je suis Dijonais, donc je suis logé chez des amis pour mes quelques jours à Nantes. Et donc ça me renvoie à ma propre histoire, c'est-à-dire ma jeunesse étudiante, et les Trash Man Shoes, c'est un groupe américain qui a pas mal marché en France parce qu'ils ont été produit par un label français, il ne trouvait pas aux États-Unis. C'est un groupe de style qui a fait des tournées avec les Pogues. Donc en gros, c'est toute ma jeunesse. Donc le côté un peu, jeunesse étudiante, etc. Donc c'est un groupe qui me touche beaucoup. Et en fait, quand tu m'as sollicité pour cet entretien, en disant qu'il faudrait que je choisisse un morceau, j'aurais écouté en les Shoulders, et le tube de leur premier album qui donne le nom de l'album, c'est Trash Man Shoes. Et du coup, pour la première fois de ma vie, grâce à toi, merci, j'ai écouté les paroles et j'ai fait l'effort d'essayer de les traduire. Et en fait, Trash Man Shoes, c'est les pompes d'ouvriers, c'est les pompes des éboueurs en fait. Et donc, c'est l'histoire, cette chanson, c'est l'histoire d'un éboueur qui est amoureux fou d'une nana qui est plus haute que lui socialement, et il fait tout pour essayer de la séduire. Il lui offre des roses, etc. Il se fait moquer par ses collègues, je crois qu'il travaille dans les chemins de fer, donc il cueille des roses en bord de voie ferrée. Et donc il se fait moquer, non seulement il se fait moquer par ses collègues, mais en plus quand il offre les fleurs à la fille, elles lui disent que ces fleurs elles puent, quoi. C'est des roses qui puent, malodorantes. Et comme ses chaussures qui puent, comme lui, quoi, tout ce qu'il est, voilà. Et donc c'est une histoire de mépris de classe. Exactement. C'est ça. Donc, et en plus j'aime beaucoup le côté mix musical, à la fois des influences folk, punk, rock bien sûr, et le chanteur a une voix énorme, et ses cris dans la chanson sont très... on voit qu'il y a du vécu dans cette écriture de cette chanson, quoi.
Faisons-nous face au mépris de classe? Là aussi, c'est une grande question donc, qui s'annonce dans le titre même du livre. Donc là, l'analyse d'Amélie Beaumont à travers son enquête auprès d'employés donc, réalisée dans un grand palace parisien et qui permet de comprendre dans le vécu, puisque c'est une observation participante qu'elle a faite, donc qui permet de comprendre dans le vécu une forme de résistance que de ces employés qui sont grooms, bagagistes, assistants à la gouvernance, etc. Cette forme de résistance vis-à-vis de la clientèle qui appartient donc aux classes supérieures, donc étant les dominants. Ici, à travers ces rapports sociaux de service, analysés, on comprend notamment les formes de résistance dans un milieu, donc celui du luxe, qui se manifeste face à un mépris quotidien et donc routinisé, pour citer Amélie Beaumont. Ainsi, en le sociologisant, se révèle donc un véritable rapport de force quand même. Et à quel point, Nicolas, le collectif peut constituer une arme, je dirais, essentielle, puissante, de résistance face au mépris de classe?
Le collectif, c'est le... C'est-à-dire que l'exemple du texte d'Amélie Beaumont est très bon, c'est-à-dire qu'elle étudie dans les grands hôtels parisiens des employés des hôtels de luxe qui ont appris à servir. Et qui l'ont fait, dans cet apprentissage, il y a un ensemble de codes qui vont être confirmés par l'aristocratie ou la bande bourgeoisie, qui sont les habitués des grands hôtels de luxe. Et il y a des formes, avant qu'il y ait des formes routinisées de mépris de classe, il y a des formes routinisées de gestion collective, par les dominants et par les dominés, de la relation inégale et de la relation de service. C'est une relation de service. Et en fait, Amélie Beaumont s'aperçoit que, en fait, dans ces configurations-là, quand les employés des hôtels servent des aristocrates, en général, il n'y a pas trop de problèmes, puisque les aristocrates, de même que les employés des hôtels de luxe ont été formés et sont habitués à servir, les aristocrates sont habitués à être servis. Donc il y a des formes de politesse, inversement de déférence, etc., qui sont des formes de routinisées où, a priori, le mépris de classe a peu à faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas ressortir. Et ce dont elle s'aperçoit, donc, c'est que c'est l'arrivée de nouveaux riches qui va poser problème, parce qu'eux n'ont pas été socialisés. Ils n'ont pas grandi dans des familles qui leur ont appris à être servis. Et donc, c'est eux qui vont pouvoir commettre des impairs dans cette relation de service, et qui pourront pouvoir être blessants, avoir des remarques, ne pas donner de pourboire, voilà. Et du coup... dans ces moments-là, dans ces moments où Amélie observe, le collectif est super important. C'est-à-dire que le collectif des employés va n'avoir de cesse dans les moments de pause, dans les moments où ils vont se croiser, ils vont échanger sur les situations d'asymétrie sociale qui dysfonctionnent. Enfin, qui dysfonctionnent dans le sens où il y a une morale de classe qui s'impose. Alors que théoriquement, elle est euphémisée, enfin pas euphémisée, elle est routinisée. Voilà. Donc du coup, il y a toute une manière de faire qui se retrouve mise en question. Et voilà. Donc c'est la première réponse sur l'importance du collectif. C'est le fait que les collègues, c'est super important dans une relation de subordination au travail pour arriver à faire face au débordement du dominant. Après, l'autre réponse évidente, mais il faut quand même le dire, c'est évidemment le syndicalisme. C'est-à-dire que se souder les coudes, c'est l'échelon après le collectif de travail, c'est le syndicalisme qui va faire en sorte que on va défendre une condition, parler en termes de rapport de classe, etc. Voilà. Après, il y a enfin une dernière manière, à notre sens, de travailler la question de la résistance au mépris de classe, c'est le « quant à soi », le « quant à soi populaire ». Donc le « quant à soi », c'est l'idée que quand dans une relation hiérarchique, un dominant demande quelque chose, en fait, non seulement le subordonné va pouvoir ne pas répondre à l'ordre qui lui est demandé, mais au-delà de ça, c'est le quant à soi, c'est l'idée que au travail, les ouvriers, les employés, etc., ont leur propre appréhension du travail et leur propre valeur sur le travail, sur la manière dont il doit être fait. Et donc, quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce système de valeurs, ils vont pouvoir se réfugier dans le quant à soi pour affirmer individuellement et collectivement autre chose que ce que le dominant est en train de mettre en place. Alors j'y ai individuellement et collectivement, parce que c'est super important, c'est-à-dire que le quant à soi n'existe que parce qu'il y a des collectifs. C'est-à-dire que c'est en famille, dans les milieux populaires, qu'on apprend à faire avec les relations de domination, qu'on apprend à se défendre, ça commence à l'école, etc. Il peut y avoir des formes très dures de quant à soi dans les cours de récréation, mais du coup c'est quelque chose que l'on intériorise et qui va nous façonner et qui après, dans la relation individuelle hiérarchique, va pouvoir être mobilisé.
Alors t'as mangé avec qui ?
J'ai mangé à la table des cadres. D'ailleurs, je me suis ennuyé à mourir parce que déjà, ils sont sinistres et puis surtout, ils sont pas très futés.
Commence pas comme ça, toi. Pour qui tu te prends, toi ?
Je me prends pour un spécial. Je dis juste que demain, j'aimerais manger avec vous. Parce que vous, vous rigolez.
Ça, sûrement pas. Hein. Tu vas pas commencer à en faire qu'à ta tête. Hein. Tu dois te faire respecter.
Papa, arrête.
Vous commencez à me faire chier !
Voilà, on commence la réunion avec du cher madame et on aboutit à la vulgarité.
Il faut que ton questionnaire soit hyper équilibré. Il faut que tu donnes l'impression que leur avis est important.
Qu'est-ce qui te prend ? C'est la réussite qui te monte à la tête ?
Mais moi je l'emmerde le patron, je les emmerde les ouvriers !
Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Because you're still living the day gone bad.
Justement, pour éclaircir cette question du quant à soi, on peut, et pour tenir cette respectabilité, il y a cette nécessité de se protéger. Et cela, tu l'abordes donc à travers l'article dont tu es l'auteur, un ouvrier qui s'expose, qui situe le mépris de classe, donc cette fois-ci en dehors de la sphère professionnelle. Donc on est plutôt dans une sphère privée, voire intime. Cet ouvrier est Sébastien, que tu connais personnellement depuis très longtemps. Vous êtes rencontrés quand vous étiez gamin. Donc Sébastien est un des protagoniste, d'ailleurs, des gars du coin, ton ouvrage, une enquête qui a été menée auprès des jeunes vivant en milieu rural. Donc là, on est au milieu des années 90, donc c'est une enquête que tu as réalisée jusqu'au début des années 2000. Et à travers ce récit qui est super intéressant et très édifiant justement par rapport à cette question du quant à soi, tu fais littéralement sa trajectoire en fait. Tu l'observes, tu l'analyses et donc par rapport à ce quant à soi donc populaire, qui préserve et qui permet, ça c'est une question assez intéressante, sur laquelle il serait intéressant que tu t'exprimes, c'est la quête de respect. Comment est-ce que, à travers la trajectoire, le récit de vie de Sébastien, quelle analyse en tout cas tu proposes de ce quant à soi populaire, donc à travers cette notion, cette question de la quête de respect ?
Alors, tu as mentionné les gars du coin et le fait que je l'ai connu enfant. En fait, on a quelques années d'écart, il est un peu plus jeune que moi.
Nicolas Reneil.
Et Sébastien, en fait, c'est quelqu'un qui, enfant, m'impressionnait beaucoup parce que il avait une forme, déjà enfant, une forme de charisme populaire, c'est-à-dire qu'il était un peu un chef de bande. pour le dire simplement, il avait toujours 4-5 copains autour de lui. C'était quelqu'un de chambreur, qui un rigolard, un bagarreur aussi, bien sûr, qui très tôt a eu du succès auprès des filles, etc. Donc quelqu'un qui avait une forme de charisme populaire. Voilà, c'est une expression qui permet de visualiser un peu le personnage. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, dès que je... Alors ça, c'était enfant. Hein, donc après, on s'est revus quand j'étais étudiant, que je commençais mes études de sociologie. Et quand j'ai commencé mon enquête, en fait, il m'a accueilli chez lui avec sa femme. Et assez rapidement, il a essayé de comprendre ce que c'était que la sociologie, comprendre ce que c'était qu'une thèse. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de lui expliquer. Et on a avancé comme ça. Et puis, en fait, ça, le fait qu'il m'accueille chez lui avec Suzanne, sa femme, le fait qu'il ait ainsi la porte ouverte, c'était aussi le signe de quelque chose chez lui. Et ce quelque chose, c'était la volonté, c'est une forme de curiosité, on peut le dire simplement, c'est de la curiosité. Mais ça correspondait à une curiosité qui correspondait à une volonté de s'en sortir socialement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait quand même pas mal morflé dans son enfance. Son père est mort quand il avait 6 ans, je crois. Il est mort d'une crise cardiaque à l'usine. C'était le dernier d'une fratrie de 9 enfants où il y avait eu situation de chômage pour beaucoup de frères et sœurs. Ils ont pris la crise en pleine face. Le père était mort un an avant la fermeture de l'usine du village. Voilà, c'était une famille qui avait besoin d'assistance, qui avait besoin d'aide. Et donc, d'où l'importance de ce quant à soi. Voilà. Et puis, en vieillissant, en grandissant socialement, sa volonté de s'en sortir, elle est d'abord s'en sortir socialement, de monter socialement, comme il me disait à l'époque. Ça, d'abord, c'est un ouvrier bâtiment, qui a un CAP de plâtrier, un CAP de peintre, et donc il voulait la logique, il était ouvrier dans des petites boîtes, et donc il voulait passer patron, quoi, enfin avoir monté sa boîte. Ce qu'il a essayé de faire quelque temps, ça a duré 2 ans, il s'est épuisé physiquement, moralement, et son couple aussi s'est épuisé à ce moment-là. Et il était dans une impasse, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, le couple s'est resserré, et puis ils ont voulu continuer malgré les problèmes dans le couple ensemble. Donc ils ont vendu leur maison dans le village, un petit pavillon, ils ont racheté une ferme qu'il a retapée, mais ils reproduisaient les mêmes schémas. C'est-à-dire que à un moment donné, en entretien, il me dit moi j'étais là, donc il me montre la partie du grenier qu'il avait refaite, et puis Suzanne, elle était là, c'est-à-dire à la cuisine, là où on faisait l'entretien, au moment où elle était partie de la maison. Et en fait, petit à petit, au-delà de la relation assez proche que j'avais avec lui, c'est quelqu'un qui a voulu s'ouvrir des horizons. Donc ça avait échoué dans sa quête de capital économique, enfin, s'en sortir en devenant patron, voilà. Et donc petit à petit, il a approfondi certaines rencontres, certaines relations qu'il avait, et il s'est ouvert socialement à d'autres milieux, des milieux plus dotés en capital culturel, donc des enseignants, des bibliothécaires, des éducs, etc. Et donc il s'est ouvert. Mais ce faisant, il a fragilisé son quant à soi. C'est-à-dire que ses armes de ce quant à soi populaire, tout en s'ouvrant, du coup, il se posait trop de questions pour y répondre simplement comme il le faisait auparavant. Et quand il s'est, à un moment donné, après la séparation du couple avec la mère de ses enfants, il a eu une aventure avec une kinésithérapeute installée comme indépendante, donc il gagnait bien sa vie. Et l'aventure a duré pendant 2 ans, et c'est mal fini, puisque il y a eu un conflit dans le couple, et que Valérie, la copine en question, a fini par lui envoyer un SMS « Casse-toi, toi et ta famille de cassos ». Et ce SMS est assez signifiant. Alors, il s'agit évidemment pas du tout de juger Valérie, surtout que j'ai pas pu faire l'entretien avec elle, mais de comprendre dans le couple à quoi ça correspondait. Et donc, du coup, du côté d'elle, pour le dire rapidement, en fait, il y avait une interrogation, d'une part, sur le devenir de ses enfants, puisque elle, qui est titulaire d'un DESS, qui a fait une formation ensuite pour devenir kiné, qui s'est installée comme indépendante, qui était divorcée d'un artisan qui avait 4 enfants. En fait, ses enfants réussissaient pas très bien à l'école. Il y en a un qui était le plus grand, était déscolarisé, et le plus jeune était en classe avec la dernière fille de Sébastien. Et la relation d'asymétrie sociale dans avec les enfants était inversé, puisque c'était la fille de Sébastien qui avait 18 de moyenne, et le fils de Valérie qui n'était pas en réussite scolaire. Et donc il y avait ce premier point, et puis l'autre point, c'était la relation de proximité très forte de Sébastien avec ses filles, qui fait que donc ça se cristallisait autour du bisou sur la bouche. C'est-à-dire que Sébastien, quand il dit bonjour à ses enfants, c'est un bisou sur la bouche. Il dit, moi, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ma mère faisait comme ça, j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et donc, c'était un enjeu dans le couple, c'était un enjeu entre eux. C'est-à-dire que Valérie disait, mais c'est malsain, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? T'imagines, quand t'as ta fille de 18 ans qui est sur tes genoux, que si quelqu'un arrive à la maison, on va penser quoi, etc. Alors que pour lui, c'était tout à fait... C'est quelqu'un de charnel, quoi, on pourrait dire, de très... Et donc, il y avait ce conflit autour du rôle éducatif du parent et autour de la sexualité, parce que c'est aussi tout l'enjeu qu'il y avait derrière, ce dont Valérie avait peur, et de manière tout à fait compréhensible. Et ça, c'était une forte cristallisation. Et le jour où une des filles de Sébastien a osé tenir tête à Valérie, ça a fait exploser le couple, et d'où ce SMS. Et alors, cette longue anecdote que je raconte, en fait, c'est pour dire que, en fait, donc, à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, la dominante dans le couple, socialement, hein, c'était, je qualifie pas du tout leur relation de couple en tant que telle, mais celle qui avait un statut social plus remarquable que celui de Sébastien, qui à ce moment-là en plus avait complètement arrêté de bosser, elle se sent en danger, parce que voilà, il y a ce problème de réussite scolaire de ses enfants, il y a un modèle éducatif concurrentiel du sien, ça la remet en question, etc. Et puis du côté de Sébastien, en fait... Et sa réaction, c'est de me dire, en fait, pendant 2 ans, j'étais sur un coussin doré et je m'en rendais pas compte. Parce qu'en fait, il était devenu complètement dépendant financièrement de Valérie. Et en fait, pourquoi tout ça? C'est cette volonté d'émancipation sociale, elle passait par la culture, par le fait que Valérie était quelqu'un qui avait une ouverture culturelle beaucoup plus forte que la sienne. Et donc c'était enrichissant pour lui, mais en même temps, progressivement, ça désarmait son quant à soi. Et tout l'intérêt de cette relation longue entre l'ouvrier et le sociologue, c'est que c'est de voir aussi la suite de l'histoire. C'est-à-dire que, évidemment, Sébastien a été anéanti et c'était compliqué pour lui de rebondir, mais il a su puiser dans ses ressources. Il a été habité chez son frère, avec qui la relation s'est de nouveau approfondie. Et avec le temps, il a réussi à retrouver un équilibre en repuisant dans son quant à soi, mais un quant à soi très différent de celui qu'il avait enfant et adolescent jusqu'à sa prime jeunesse et sa première relation de couple avec la mère de ses enfants. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui a fait un travail énorme sur lui, qui a fait un sevrage alcoolique, etc. Et qui arrive à être bien dans son quant à soi un peu culturalisé, je sais pas comment le dire, mais c'est quelqu'un avec sa nouvelle compagne qui est institutrice, et ben voilà, c'est une institutrice issue du milieu modeste également, qui voilà, ils ont leur petite pratique, ils lisent ensemble, ils passent des bouquins, ils vont de temps en temps à un concert, etc. Donc en gros, il est arrivé à stabiliser son quant à soi tout en effectuant ce qu'en sociologie on appelle une mobilité sociale horizontale, c'est-à-dire qu'il voulait sortir de sa condition, il n'en est pas sorti en termes professionnels, mais c'est quand même quelqu'un qui a réussi à révolutionner sa vie.
C'était Nicolas Renaï rencontré dans le cadre de la sortie de Mépris de classe, L'exercer, le ressentir, y faire face, paru aux éditions du Croquant. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur alternantefm.net. Merci de votre écoute et à bientôt sur Alternante.